Radio Okapi.
Il est 15h à Kinshasa, les titres de votre journal. En Nord Kivu, une vive tension est observée ce vendredi dans la cité de Nyamilima et les activités socio-économiques y sont paralysées. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru. Justice pour Goma, plus jamais ça, ce carnage ne peut passer inaperçu. C'est par ces termes que les membres du réseau Pona Congo ont rendu hommage aux victimes du carnage de Goma lors d'une cérémonie organisée jeudi à la place Génocoste, ex-place des évolués à Kinshasa. Notre invité est Eric Odonkoukoukiesse. Il parle de la campagne de vulgarisation en cours sur la nouvelle loi en matière de prévention et de la répression de la traite des personnes en RDC. Madame, Messieurs, bonjour. Alain Goyi et Thomanette, Fulbert Balolagué à la présentation. Tout d'abord, au Nord Kivu, une vive tension est observée ce vendredi dans la cité de Nyamilima et les activités socio-économiques y sont paralysées. Nous sommes à environ 40 km de Kiwanja dans les territoires de Rutshuru. Des sources sur place renseignent que la situation est consécutive à un accrochage dans la soirée d'hier jeudi entre un groupe d'habitants et les éco-gardes. Un habitant a perdu la vie, disent ces sources. Bernard Denyangui.
Depuis le matin ce vendredi, la route Kiwanja-Ishasha est barricadée dans les entrées sud et nord de la cité de Nyamilima, où boutiques et marchés sont restés fermés toute la matinée. Selon les sources locales, tout est parti d'un violent accrochage dans la soirée hier jeudi entre les éco-gardes de l'ICSN et un groupe d'habitants mêlés aux combattants Maïmaï dans la zone de Kabuendo. C'est à l'ouest de Nyamilima dans le parc national de Virunga. Selon ces sources, cette coalition habitant Wazalendo venait de détruire environ 3 km de la clôture électrique posée par l'ICSN depuis 2020 pour démarquer les limites du parc et les terres de la chefferie et prévenir la prédation des cultures des riverains par les animaux du parc. Selon certaines sources de l'ICSN, les éco-gardes sont intervenus pour stopper cette entreprise, mais il s'en est suivi un accrochage causant la mort d'au moins un jeune habitant. Ainsi donc, la population de Nyamilima en colère exigerait réparation et la suppression totale de cette clôture. Rappelons que depuis fin 2022, il y a une absence de l'autorité de l'État à Nyamilima et seuls les Maïmaï contrôlent la zone, ce qui exacerbe ce conflit entre les éco-gardes du parc et une frange de la population qui conteste ce projet de démarcation du parc par une clôture électrique. Goma, Bernard Nyangui, Radio Okapi.
Merci Bernard Nyangui. Rendons-nous à présent à Ituri. Les dialogues entre les communautés de Djougou et de Mahagi sur la problématique des groupes armés actifs dans les deux territoires limitrophes s'est clôturé mercredi. Les parties n'ont pas signé d'accord. Les participants venus de Mahagi ont exigé au préalable la libération des 11 personnes prises en otage à Mokambo il y a plus d'une semaine par Codeco. La milice armée, elle, conditionne la libération de ces civils par la libération d'un des leurs détenus par les parquets militaires de Mahagi. Ces exigences font craindre de nouvelles tensions selon des observateurs. Les points avec Martial Kiza Biamungu.
Ce dialogue intercommunautaire de 10 jours sur la paix et la cohabitation pacifique avait pour objectif de trouver des solutions pacifiques face aux exactions attribuées aux groupes armés Codeco et Zaïre à la fois dans les territoires de Djougou et Mahagi. Après avoir fait les diagnostics de ce qui les divise et proposé des pistes de solutions lors des travaux en groupe, la délégation venue de Mahagi a refusé de poser sa signature au bas de l'acte d'engagement qui devait sanctionner ses assises. Octave Vaweka, président de la communauté, alors justifie leur position.
Nous avons dit aux autorités que c'est impensable qu'on puisse sacrifier la vie des 11 personnes parce que nous connaissons le mode opérateur de Codeco.
Jean-Marie Ndjaza, vice-président de la communauté Lori, venu de Djougou, reste optimiste quant à l'aboutissement de ces processus de paix.
Les administrateurs des territoires de Mahagi et de Djougou ont remonté les informations jusqu'à la hiérarchie et tout ce qui n'est pas marché, ce n'était pas les travaux, c'était seulement on a manqué le temps pour la signature de l'acte d'engagement.
Cette rencontre a été organisée par les autorités gouvernementales grâce au financement de l'ONG Action pour la paix et la concorde APC. Bounia, Martial Kizabiamonko, Radio Okapi.
Justice pour Goma, plus jamais ça, ce carnage ne peut passer inaperçu. C'est par ces termes que les membres du réseau Pona Congo ont rendu hommage aux victimes du carnage de Goma ce jeudi lors d'une cérémonie organisée en fin d'après-midi sur la place Genecoste, ex-place des évolués à Kinshasa, en présence de plusieurs membres de la société civile et des mouvements citoyens, des étudiants et quelques politiciens. Pour Emmanuel Mabunguta, membre du réseau Pona Congo et coordonnateur du mouvement Justice en action, ces rassemblements expliquent la nécessité de la garantie de la non-répétition de ces actes atroces et la nécessité que les responsabilités soient établies à tous les niveaux. Les propos d'Emmanuel Mabunguta ont été recueillis par Jean-Désiré Kanyama.
Nous avons organisé ça pour rappeler au gouvernement congolais qu'il fasse justice. Il ne suffit pas seulement de rappeler un gouverneur à Kinshasa, mais il faudrait aussi que ce gouverneur-là, parce que c'est lui qui est le chargé des opérations dans cette province, il doit répondre de ses actes en tant que chef des opérations dans la province du Nord Kivu. Mais aussi nous voudrions que toutes ces personnes qui ont donné l'ordre pour lancer l'assaut, qu'ils soient aussi devant la barre, parce qu'on ne peut pas imaginer une telle opération d'une telle envergure que ce soit seulement le gouverneur militaire qui ait pris la décision. Il y a même le gouvernement central, il y a même toutes ces personnes-là qui sont dans la chaîne de commandement, qui doivent répondre de leurs actes. Voilà pourquoi le réseau Pona Congo a voulu d'abord, premièrement, pour cette activité de commémoration, rendre un hommage à toutes ces victimes, lancer un message de solidarité aux familles des victimes, mais aussi aux blessés, mais aussi à toutes ces personnes qui ont perdu les leurs, qui ne savent pas où ils se trouvent. Et nous lançons aussi un message au gouvernement congolais, nous voulons la justice pour Goma.
Dans le même chapitre, et en bref, le Front commun pour le Congo condamne fermement les carnages perpétrés le 30 août dernier à Goma contre des civils non armés. Il réitère sa position quant au processus électoral en cours, à savoir une CENI inclusive, une cour constitutionnelle équilibrée et une loi électorale beaucoup plus équitable. Par ailleurs, le FCC insiste sur la sécurité des opposants qui, je les cite, sont souvent menacés, persécutés et d'autres mis arbitrairement en détention. La délégation de la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila l'a dit hier au sortir de l'audience lui accordée par la chef de la MONUSCO. Bintou Keïta a en effet entamé une série de consultations avec des différentes sensibilités politiques congolaises. C'est en prévision de la tenue dans quelques jours de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. La délégation du FCC était conduite par Emmanuel Ramazani Shadari en l'absence de Raymond Tshibanda. Parlant toujours de cette situation de Goma, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde devrait tirer les conséquences après le carnage de Goma et rendre l'établié. C'est ce que demande le député national Saint-Nicolas Irakan. C'est au lendemain du retour à Kinshasa de la délégation ministérielle mandatée à Goma par le gouvernement pour s'enquérir de la situation des tueries de plus de 50 personnes le 30 août dernier. D'après cet élu de Bounia, il y a défaillance à plusieurs niveaux au sein du gouvernement Sama. Et cela montre à suffisance que le Premier ministre n'arrive pas, d'après lui, à gérer le pays. Saint-Nicolas Irakan le dit au micro de Jacques-Yves Molima.
Il est bien clair qu'après ces massacres, un massacre qui se rapproche de plus en plus d'un crime d'État, il est important que le Premier ministre puisse se retirer des affaires. Il doit démissionner de son propre gré. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé, ça engage plusieurs ministères, notamment la défaillance des ministères de la Défense, des ministères de l'Intérieur, des ministères des Affaires étrangères, plusieurs services. Et donc, il est important aujourd'hui que le Premier ministre Sama tire la leçon qu'il est incapable de gérer le pays. Alors, s'il ne démissionne pas, nous, en tant que députés, nous allons initier une motion de censure. Ça veut dire que lui, le Premier ministre, avec tout son gouvernement, devra tomber. C'est là où je suis en train d'appeler tous les députés nationaux qui sont intègres de pouvoir s'impliquer dans cette affaire. Il y a des collègues députés qui pensent que c'est l'affaire des partis politiques. Ici, non, il s'agit d'une affaire d'État, d'une affaire de notre population que nous devons sauvegarder.
Au Sud Kivu, présentation au public hier jeudi d'un jeune garçon auteur et victime d'un cas de kidnapping dans la ville de Bukavu. Il a fabriqué une fausse histoire d'enlèvement au mois d'août dernier. Il venait d'être appréhendé alors qu'il tentait de récupérer lui-même l'argent envoyé par sa famille comme rançon. D'autres détails avec Emmanuel Elamegi.
L'histoire remonte au mois d'août dernier à Bukavu, le kidnapping d'un jeune garçon bien connu sur la ville dont ses ravisseurs réclameraient 5 000 $ américains de rançon pour sa libération. Tout le monde se mobilise et sa famille se cotise. Les services ouvrent des enquêtes. Dans les enquêtes sur le numéro de téléphone fourni par lui-même comme son propre ravisseur, il sera surpris dans le territoire de Walungu en train de retirer l'argent envoyé en signe de rançon. Le ministre provincial de l'Intérieur du Sud Kivu, Albert Moussambia.
Si nous le présentons devant vous, c'est pour des raisons pédagogiques, pour que les autres sachent que c'est une nouvelle pratique qui a commencé dans notre province. Donc tous les cas qui sont rapportés de kidnapping, ce ne sont pas des vrais cas, ce sont des cas où les gens cherchent l'argent. Donc c'est notre business. Nous mettons en garde quiconque va s'illustrer dans ce genre de pratique. Le monsieur ici présent doit être très rapidement déféré devant les instances judiciaires.
Signalons que de telles pratiques sont devenues monnaie courante dans la ville de Bukavu ces derniers temps. Des jeunes gens engagent même des bandits pour aller piller leurs propres parents. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Nous restons toujours au site Kivu et avec vous, Emmanuel. Environ 45 maisons de l'État ont été spoliées au cours des 10 dernières années à Bukavu. Une vingtaine d'autres maisons seraient dans le viseur des spoliateurs pour priver l'État congolais de ses biens. Révélation faite hier jeudi à Bukavu par les bureaux de la société civile. Cette structure citoyenne demande l'implication de tout le monde pour mettre un terme à cette pratique.
La société civile du Sud Kivu dit constater la spoliation de biens de l'État par et avec la complicité des agents qui sont payés par le même État congolais. Autorités politiques, magistrats, avocats, agents fonciers et même les hommes d'affaires. Adrien Zawadi.
Les magistrats qui sont à Kinshasa et qui donnent des injonctions à leurs collègues ici, les jugements là que disposent les spoliateurs, ce sont des jugements cousus de toutes pièces. Mais ils sont fabriqués où? Nous avons les politiciens qui gèrent la province, nous avons aussi les services fonciers et cadastraux. Nous avons les cabinets d'avocats qui, justement, à cause de l'argent, ils acceptent d'accompagner ces spoliateurs et un réseau de commerçants de minerais qui sont intouchables, qui sont des grands corridors qui achètent les maisons de l'État.
La société civile affirme détenir des informations sur une vingtaine d'autres maisons de l'État en cours de spoliation en ce moment dans la ville de Bukavu. Elle responsabilise tout le monde afin de sauver ce qui peut l'être.
À ce tête, il y a à peu près 18 maisons qui sont dans les viseurs de ces spoliateurs-là. Les spoliateurs sont dans un processus de confectionner, comme d'habitude, des faux jugements qui vont imposer à l'État et l'État va perdre.
Jusque-là, pas de réaction du gouvernement provincial. Emmanuel Elamejo Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Merci beaucoup Emmanuel Elamejo. Toujours au sud Kivu, mais cette fois-ci à Kamituga, dans le territoire de Mwenga, la rentrée scolaire est bel et bien effective. Depuis le 4 septembre dernier, l'engouement des enfants est très remarquable sur les rues de Kamituga. Notre reporter sur place, Rachel Kessembangu, a visité deux écoles ce jeudi 7 septembre. Voici son constat.
À l'école primaire Kamituga section française, située au quartier Kansis, commune de Bitanga, le cours se donne normalement. Les 14 salles de classe du primaire sont opérationnelles et 500 enfants étaient présents ce jeudi. Basubi Lueso Léonard, directeur de l'EPE Kamituga.
En tout cas, ici dans mon école, la rentrée a été effective. Il y avait un engouement des enfants, des parents. Les enseignants se sont présentés. Bon, cette école, c'est une école de référence. C'est-à-dire, il y a l'assiduité. On est en train de suivre les enseignants vraiment à la loupe pour qu'ils puissent donner un bon enseignement de qualité.
De l'autre côté, à l'Institut Zalia de Kamituga, moins d'engouement. La difficulté, beaucoup d'élèves se font inscrire à la rentrée. Yanda Bazika Grégoire, préfet.
Les difficultés auxquelles nous heurtons, surtout ici chez nous, c'est que les élèves souvent s'inscrivent le jour de la rentrée. Ils viennent massivement s'inscrire les jours de la rentrée. Or, les inscriptions ont des phases. On attendait les élèves pour s'inscrire, mais on n'avait trouvé personne.
Signalons que dans les écoles de Kamituga, il y a plus de filles que de garçons. Pour certains habitants, cela est dû au fait que les garçons vont travailler dans les carrés miniers. De Kamituga, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la plateforme U-Report Butembo a assisté hier jeudi en fourniture scolaire les élèves de l'école primaire Saint-Jérôme, un établissement scolaire réservé aux enfants déplacés de guerre vivant à Butembo. Les organisateurs parrainés par l'UNICEF indiquent que cette assistance s'inscrit dans la célébration de la journée internationale de la charité célébrée chaque 5 septembre. Les bénéficiaires se disent soulagés au regard du besoin ressenti en ce début d'année scolaire. Grévis Salomon.
Les fournitures scolaires remises aux élèves sont constituées notamment des cahiers, ardoises, stylos, craies et autres fournitures des bureaux. Happy Katina, le responsable de la plateforme U-Report Butembo, explique l'essence de cette assistance.
Les enfants sont déplacés aujourd'hui, ils ne l'ont pas choisi. Ils le sont aujourd'hui, tout comme nos pauvres enfants peuvent le devenir. Raison pour laquelle nous avons voulu récolter quelques fournitures scolaires que nous venons de donner, poser cette action pour compatir avec ces enfants, pour qu'ils se sentent aussi à l'aise et intégrés dans la communauté, comme nos propres enfants qui vivent dans des situations normales.
Une assistance qui tombe à point nommé au regard des difficultés auxquelles font face ces élèves, a dit Charlotte Voutsoupiré, directrice de cet établissement scolaire.
En tout cas, je dis grand merci à ce groupe de U-Report puisqu'ils viennent voir les enfants qui sont des déplacés, vulnérables et orphelins. En tout cas, ça va beaucoup les aider puisque ce sont des enfants qui se sont présentés sans fourniture scolaire. Suivez aussi les modèles, venez voir les enfants.
Soulignons que l'école primaire Saint-Jérôme compte à ce jour un effectif de 120 écoliers déplacés venus des zones en proie à la sécurité de la partie est de la RDC. Butembo, Grévis Salomou, Radio Kapi.
Actualité internationale.
À l'international, sachez que le président de la transition au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a nommé hier jeudi 7 septembre Raymond Dong Sima, premier ministre de transition, un économiste et opposant au président Ali Bongo, renversé par les militaires il y a une semaine.
L'invité.
L'invité de ce journal est le coordonnateur adjoint de l'agence en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite des personnes. Eric Odonkoukou-Kiesse parle de la campagne de vulgarisation en cours sur la nouvelle loi en matière de prévention et de la répression de la traite des personnes en RDC. Il s'entretient avec Jeff Ngoï.
Eric Odonkoukou-Kiesse, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de procéder au lancement d'une campagne de vulgarisation de la loi relative à la répression de la traite des personnes. Vous avez remis quelques exemplaires du texte de loi aux magistrats. Que révèle cette loi? Quelle est son importance?
L'intérêt de la loi, c'est d'abord, pour le marquer, c'est en fait le summum des efforts qui ont été réalisés par l'ancienne agence, Appel TP, sous la vision évidemment de son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, qui a bien voulu que la traite de personnes soit incriminée dans toutes ses formes comme des infractions en République démocratique du Congo, et ce, en application de la Convention de Palerme. La Convention de Palerme, il s'agit là d'un protocole additionnel, Convention sur la criminalité transnationale organisée, tendant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Après les efforts dont je viens d'épingler, qui ont donné lieu à un avant-projet de loi sur la lutte contre la traite des personnes, cette loi a été moulée au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat en une loi. Nous avons actuellement, sous la plume du chef de l'État qui l'a promulguée, c'est une loi qui comprend en somme 4 articles, mais dans les 4 articles, il y a eu fondamentalement insertion de nouvelles infractions portant sur la traite de personnes dans l'ancien code pénal du 30 janvier 1940, ce qui fait qu'à partir du 26 décembre 2022, avec la promulgation, nous avons désormais dans les listings des nouvelles infractions sous l'article 68 qui a été démembré, plusieurs infractions qui constituent plusieurs formes de traite des personnes en République démocratique du Congo. Donc c'est cela, en fait, une espèce d'innovation.
Ce qui a marqué l'agence devenue la coordination à son actif, qu'est-ce qu'on peut retenir depuis sa mise en place en termes de bilan?
Ce qu'on doit retenir, c'est que sur les questions liées aux interventions en matière de traite des personnes, deux volets essentiellement ont été pris en compte dans la vision du chef de l'État. Le premier volet, c'était la prévention en matière de la traite des personnes. Et le second volet, qui vient d'être bien évidemment consacré par la nouvelle loi, c'était l'aspect répressif. Et comme acquis, nous avons dans plusieurs campagnes de sensibilisation et dans plusieurs activités d'ateliers ou de conférences, tendant à la formation de ce que nous appelons des acteurs de première ligne sur la chaîne pénale, donc là je cite les magistrats, les OPJ, les avocats, nous y incluant également les assistants sociaux, parce qu'ils prennent en charge les victimes des violations de graves des droits de l'homme, mais en particulier, ils prennent également en charge les victimes de la traite de personnes. Nous avons procédé donc à des activités visant l'implémentation de la notion de la traite des personnes, plusieurs campagnes de sensibilisation, tenues non seulement ici dans la ville de Kinshasa, mais à travers plusieurs provinces. Et le 30 juillet de l'année passée, nous avons tenu la manifestation liée à la journée mondiale sur la traite des personnes à Kisangani.
En termes de chiffres, combien de criminels présumés, ou bien combien d'infracteurs avez-vous pu identifier ou faire déférer devant les cours et tribunaux, et avec quels résultats?
Vous allez remarquer que depuis 2006 jusqu'en 2018, date d'investiture du chef de l'État, 2019, lorsqu'il a commencé à constituer son cabinet, nous n'avions pas une loi qui réprimait une infraction liée à la traite des personnes. Je voudrais que la population comprenne, c'est que en n'ayant pas une structure, une loi en cette matière, la RDC avait une cotation très très basse. Elle était au niveau du tiers 1.
La finalité ou l'objectif, c'est d'avoir cette loi pour être bien cotée au niveau mondial.
Non,
bien
cette cotation,
c'est de réprimer.
Tout à fait. Cette cotation, qui est évidemment animée par le département d'État des États-Unis, est également prise en compte dans le concert des Nations Unies. Et c'est une cotation, évidemment, qui tient compte des efforts de chaque État en matière de prévention et surtout de lutte contre la traite des personnes. Vous avez parlé de la répression. Enfin, de permettre à cet État d'entrer en collaboration politique, économique, voire diplomatique sur certaines matières avec d'autres États. Mais avant même que cette loi n'intervienne, je tiens à relever que le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe avait déjà procédé à une instruction en flagrance. Il y avait des Chinoises qui étaient amenées, qui étaient soumises à la prostitution forcée, ce qui est qualifié dans notre code pénal, suivant l'article 174J, c'était déjà qualifié d'incitation à la débauche. Donc cette prévention-là est comparable à ce que nous appelons la prostitution forcée, ou si vous voulez, le proxénétisme. Donc il y a déjà eu un grand nombre d'auteurs en cette matière qui ont été condamnés, et ce procès a même été, je crois, relayé par votre organe de presse. Donc nous sommes dans la phase de la vulgarisation, afin que ce mouvement de recherche des infractions en matière de traite des personnes, des poursuites à charge des auteurs de ces infractions-là, soit intensifié pour que la RDC atteigne un niveau plus élevé en matière de lutte contre la traite des personnes.
Et nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie.
Fin de cette édition du journal présentée par Fulbert Balolagué, coordonnée par Pele Kipela Mondo, supervisée par Jacques-Yves Molima. La mise en onde est assurée toujours par Alain Goy. Merci à vous de l'avoir écouté.